Bonjour, bienvenue à tous dans la radio La Tribu sur l'émission de sport qui n'a pas encore de nom, mais ça ne serait tardé en tout cas.
Ça va arriver.
On y croit. D'ailleurs, on a changé de créneau. On passe du samedi au vendredi soir, 18h-19h. En compagnie de Maya. Salut Maya.
Salut.
Ça va bien?
Super, on est en week-end.
Bah,
on
c'est
une
cool.
Émission de sport.
C'est beau, c'est bien. C'est super, c'est bio, c'est cool. Ça n'a rien à voir. Salut Agathe.
Salut.
Ça va bien?
Oui, super. Bah, toujours pour parler de sport.
Hein. Eh ben génial. Voilà, Agathe qui a rejoint l'équipe,
ouais.
Qui avait fait quelques émissions de sport avec nous.
Ouais, une fois, je crois, j'avais fait.
Une fois. Tout à fait. Donc tu rejoins l'équipe sportive de La Tribu.
C'est ça.
Voilà, enfin l'équipe du sport en tout cas, de la radio La Tribu. Voilà, donc le rendez-vous le vendredi 18h-19h tous les vendredis sur la radio La Tribu. Et puis on va parler forcément de sport. Alors, qu'est-ce que vous, vous avez préparé?
Alors,
vas-y, je t'en prie.
Moi j'ai préparé une présentation d'un athlète français qui s'appelle Kevin Mayer.
Kevin Mayer, bien sûr, qu'on connaît bien. Agathe. Non, tu n'as rien de
non.
Mais tu avais pas un petit article tout à l'heure en fait.
Si, mais je
oui,
pensais
ben
si
voilà.
Je connaissais Kevin.
Ah oui.
Ah,
tu connaissais
non.
Pas. Tu connais pas Kevin.
Non.
Attends, mais quand même, tout le monde connaît.
Un peu la
Kevin.
De la France en athlétisme.
Quand même.
Et bah c'est une info par rapport à ce qui se passe en Ukraine, etc. Les athlètes.
Ok.
Et j'ai une autre info niveau biathlon.
Très bien, voilà, donc il y a du programme. Et ben moi je vais vous parler justement des Paralympiques aussi qui démarrent aujourd'hui. La cérémonie d'ouverture, c'était à 13h sur France Télévisions. Voilà, donc le début des épreuves à partir de demain. On va parler aussi du boycott, ça va rejoindre un petit peu ton sujet, puisqu'on va parler du boycott des athlètes russes sur les grosses compétitions. Voilà, donc ça sera la question du jour, du coup. Voilà, est-ce que vous trouvez ça normal? Et quelle est votre opinion par rapport à tout ça? Si on a le temps, on fera des petites anecdotes autour du football. Un petit quiz aussi, sport, parce qu'on aime bien jouer quand même dans la radio La Tribu, c'est cool. Et puis bah, peut-être, si on a le temps, on parlera d'un film autour du sport. On fera un petit mix entre Cinémag et l'émission sport. Pas mal ça?
C'est super.
C'est génial. Eh bien, on va démarrer tranquillement notre émission. Qui veut commencer?
Je commence.
Honneur
c'est
à
ça,
Maya.
Petit signe.
On va en savoir plus sur Kevin Mayer.
Alors, Kevin Mayer est un athlète français qui est né le 10 février en 1992 à Argenteuil, dans la région d'Île-de-France. Il a commencé l'athlétisme vers 2004-2005, donc à l'âge de 12-13 ans. Avant de faire de l'athlétisme, il avait fait plein d'autres sports comme le tennis et le hand. Mais ça lui plaisait pas trop. Il trouvait que c'était un peu tout le temps la même chose, tout ça. Et donc il a découvert l'athlétisme où, bah, du coup, dans l'athlétisme, il y a plein de sauts, enfin plein de sauts différents, plein de lancers différents,
plein de
courses différentes. Donc ça lui a plu. Donc dès le début, Kevin se débrouille très bien en athlétisme. Il se spécialise dans le décathlon, qui sont 10 épreuves combinées avec 4 courses. Donc le 1500 mètres qui est une course d'endurance, le 110 mètres qui est une course de vitesse, le 100 mètres et le 400 mètres qui sont aussi des courses de vitesse. Il y a aussi 3 lancers, le saut en longueur, le saut en hauteur et le saut à la perche. Puis 3 lancers... Non, il y a 3 sauts et 3 lancers, le lancer de poids, le lancer de javelot et le lancer de disque. Bien sûr, comme le décathlon comporte 10 épreuves, les épreuves sont réparties sur 2 jours, parce que physiquement, c'est pas facile de faire 10 épreuves. Donc il y a 5 épreuves du coup le premier jour et 5 autres épreuves le deuxième jour. Kevin Mayer s'est fait remarquer lors de son nocathlon, donc qui est une sorte de décathlon, voilà.
mais avec
deux épreuves
une discipline
en moins.
De... Non, deux épreuves. Nocathlon
bah, deux 9, épreuves
9.
En moins.
Ouais.
Au cathlon, c'est 8 épreuves.
Moi j'irais haut.
Oui, ça c'est sûr.
Voilà.
Mais oui,
puis,
du coup,
c'est
8
épreuves.
Donc
c'est 2 épreuves.
Là, c'est au cathlon. J'ai compris.
Le cathlon. Donc il finit premier avec un total de 6478 points. Et qui est d'ailleurs qui a seulement 4 points du record mondial cadet. Donc il a quand même un bon niveau, on peut dire. Après cela, donc, Kevin il enchaîne les décathlons et commence à passer en pro athlète. Il est médaillé argent aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Au championnat d'Europe le 5 mars 2017, il établit le record d'Europe en salle de l'heptathlon avec 6479 points. Il est champion du monde de décathlon depuis le 16 septembre 2018. Il raconte dans une vidéo qu'il a failli abandonner et qu'il s'est battu comme jamais pour obtenir ce titre parce qu'il y avait aussi des douleurs, des moments où il n'arrivait pas à faire exactement ce qu'il voulait. Donc ça a été très compliqué cette compétition.
Ah oui, c'était pas par rapport à un accident ou quoi que ce soit.
Non,
c'était...
ça c'est justement la chose juste après pour raconter donc des choses plus tristes, on va dire, parce qu'il n'y a pas que des victoires dans le sport, comme pouvait dire aussi Kevin. Il s'est blessé quelques mois avant les championnats du monde de Doha en 2019. Il s'est blessé au tendon d'Achille. Et il s'est quand même rendu à la compétition. Il a essayé de se soigner à peu près. Donc le premier jour, il a assez mal, mais il arrive quand même à enchaîner le lancer de disque et d'autres épreuves. Mais le deuxième jour, malheureusement, il s'arrête au saut à la perche, où il faut vraiment courir et bien impulser avec la perche. Il est vaincu par la douleur, comme ont pu dire les commentateurs ce jour-là. Et donc, il est obligé d'arrêter la compétition et donc les championnats du monde.
D'accord.
Donc voilà.
Bon, c'est vrai qu'en fait, douleur au talon d'Achille, pour un mec qui fait de l'athlétisme,
c'est sans faute,
ouais, carrément.
Ça fait pas de comment il s'est blessé?
Non, c'est pas dit, c'était quelques mois avant la compétition, peut-être en entraînement ou...
Okay.
D'accord.
Il l'a pas raconté. Même j'avais vu une vidéo, il racontait justement... Parce que Kevin, sur sa chaîne YouTube, il a une chaîne YouTube, et il raconte certaines de ses compétitions, donc il résume tout.
D'accord.
Et là, il avait raconté cette compétition, où... mais il précisait pas où est-ce qu'il s'était blessé.
Parce D'accord. qu'il a quel âge ?
Il est né en 1992, donc il a 30 ans.
C'est ça, il a 30 ans.
Il a eu 30 ans,
il est hyper jeune,
d'accord.
D'accord.
Ouais. Dernier.
Ouais, ouais.
D'accord.
Hyper jeune pour
là,
un sportif.
Fin de carrière ? Ouais, mais 30 ans, tu peux jusqu'à 35, hein, je
ouais.
pense.
Ouais, bah, de ce que j'ai vu, y a pas, ouais. On n'a pas dit fin de carrière. Il est arrivé quatrième au JO de
les
Tokyo.
Derniers, ouais.
Ouais,
okay.
Les JO derniers. Donc, voilà, il est toujours sur une bonne lancée,
d'accord.
on va dire.
Il fait partie des grands athlètes français.
D'ailleurs,
Kevin
quand on fait une recherche sur le décathlon, on peut voir directement la photo de Kevin Mayer sur la page de recherche.
Oui, ok, d'accord. C'est lui qui est mis en avant, forcément, parce que c'est lui qui a le plus de records.
Voilà.
Plus de titres, carrément. Agathe, tu veux que je continue ?
Oui, hein, mais comme je ça, veux bien la tablette aussi.
Ah, tu veux la tablette. Ok, je te file la tablette.
Merci.
Eh bien, on va parler maintenant des Jeux paralympiques de 2022 hein, qui se déroulent depuis... Enfin, voilà, cérémonie d'ouverture, comme j'ai dit tout à l'heure, à midi, heure française, et qui se dérouleront, donc premières épreuves demain, jusqu'au 13 mars à Pékin, Beijing. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, Beijing, c'est la première ville à accueillir les Jeux paralympiques d'été, puis ceux d'hiver. C'est la seule, d'ailleurs, à avoir accueilli les deux types de Jeux olympiques, hiver et été.
Ah, souvent, c'est pas dans la même ville, c'est ça?
Les non, souvent, ouais, ça, oui, ça. Alors, paralympiques, c'est dans la même ville, forcément. Mais là, c'est parce que du coup, Beijing a accueilli aussi les paralympiques d'été en 2008.
Ah oui, d'accord. Okay.
Voilà, donc pas la même année. Mais là, comme ils ont fait les Jeux olympiques en 2022 en Chine, forcément, c'est toujours le pays hôte qui accueille le paralympique parce que on est sur le même village olympique en fait derrière. Voilà. Pour les Français qui vont représenter le handisport, 19 sportifs handisport, dont 4 guides. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous voyez ce que c'est les guides ?
Non. Bah, c'est ceux dans la course qui... Alors, je vois en athlétisme, sur les courses, ils sont là à côté d'eux.
Ouais.
Du coup, ils vont les guider sur la course, c'est ceux qui sont voyants.
C'est ça.
Exactement.
Ouais, et quand ils courent, vu que l'autre, il ne voit pas.
C'est ça.
Et bah, ils se mettent devant, ils courent plus vite.
À côté,
vite,
je crois qu'ils sont attachés par la main, non ? C'est pas un truc
Non, ils sont juste à côté.
Tout à fait.
Ils courent à côté, mais ils parlent juste.
Oui, oui, c'est ça, tout à fait. Donc, c'est ceux qui, les sportifs valides, enfin, en tout cas, voyants, pas forcément valides, mais voyants qui accompagnent tous les sportifs non-voyants ou malvoyants sur les compétitions. Alors, c'est pas que sur les Jeux Olympiques, c'est sur toutes les grosses compétitions handisport. Voilà. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez comment devenir un guide? Parce qu'ils recherchent en fait des guides d'athlètes en handisport pour les différentes compétitions.
Ouais.
Vous savez que ils recherchent
souvent. Ça doit
être
compliqué d'en trouver parce que souvent ceux qui le font, ils peuvent le faire sans guider. C'est-à-dire ils peuvent gagner eux au lieu de guider.
Ouais, au lieu de.
Oui,
oui parce
tout
que
à fait.
Du coup, ils ont aussi un niveau.
Ouais, bah ils ont un niveau hyper élevé du coup s'ils sont devant.
Alors oui, alors c'est ce qu'ils demandent en fait. Ils demandent justement sur les athlètes valides souhaitant devenir guide d'athlètes handisport, donc surtout pour les déficients visuels, comme on le disait. Ils demandent d'avoir un niveau sportif, une performance de course avec un chronomètre aux alentours de 10 secondes sur 100 mètres ou de 48 secondes sur 400 mètres. Donc on n'est pas sur les records du monde, hein, parce que c'est forcément moins.
10 secondes 100 mètres,
mais c'est déjà pas mal. Hein. Mm. C'est déjà pas mal. En plus de cela, l'athlète doit avoir la volonté de participer à ce projet à un niveau humain, forcément. Hein. Il faut qu'il y ait une vocation sociale derrière, d'accompagnement pour accompagner tous ces sportifs déficients visuels. Et puis la volonté d'Handisport, c'est de créer une école mondiale de guidage en athlétisme composée de guides et d'athlètes Handisport qui permettra d'améliorer les performances de ces derniers athlètes et de créer une communauté sportive basée autour de valeurs communes et d'aider ces champions à remporter le plus de trophées. Voilà, alors comment postuler si cela vous intéresse, parce que ça peut intéresser les sportifs de rentrer dans cet altruisme en tout cas envers les sportifs déficients visuels. Il suffit d'écrire à l'adresse athlétisme@handisport.org et de juste dire son parcours sportif et ses motivations. Donc après il y a tout un jury de sélection derrière.
Une petite lettre de motive,
c'est complètement ça. Et quand tu es sélectionné, les entraînements, ça se déroule à Paris dans les locaux de l'INSEP, l'Institut National du Sport d'Expertise et de Performance à Paris. Et puis voilà, tout
en
simplement.
En vrai, je trouve ça super intéressant comme métier parce que tu peux à la fois faire du sport, donc te maintenir en forme et faire si c'est ta passion. Et à la fois,
t'aides quelqu'un.
Quelqu'un, c'est tu ça. L'aides lui aussi à réaliser son rêve. Je sais pas, je trouve ça trop bien.
Ouais, puis en fait, l'athlète handisport gagne un trophée, c'est comme si le guide aussi l'avait gagné, quelque part. Parce que c'est presque une team, en fait. C'est une équipe, quoi. C'est ça. Hein. Donc voilà, si ça intéresse quelqu'un, il suffit d'écrire athlétisme@handisport.org. On rappellera ça sur le site internet. On va revenir aux Paralympiques, hein, parce que on va parler maintenant des épreuves, puisqu'il y a 78 épreuves différentes réparties sur 6 sports regroupés en 2 catégories. Les deux catégories, c'est les sports de neige, donc tout ce qui est ski alpin, ski de fond, biathlon et snowboard, et les sports de glace, donc le hockey sur glace, donc adapté bien sûr, et le curling en fauteuil roulant.
J'ai vu du hockey sur glace là pendant les Jeux Olympiques, pas les Paralympiques, mais
pour les valides.
Voilà, c'est ça, pour les valides. Et si j'avais jamais vu du hockey sur glace, en fait, c'est pas violent, mais c'est hyper rapide et voilà, j'étais étonnée par ça. Et
même ça se fight un peu hein, quand même.
J'ai vu une vidéo sur des enfants qui regardaient, ça devait pas être cette année, mais il y a quelques années, des enfants qui regardaient, donc juste avoir des vitres. Et il y a un moment, quelqu'un qui est arrivé sur la vitre, mais assez violemment, l'enfant il a fait un bond en arrière tellement il avait eu peur et c'est très rapide. Ouais. J'ai jamais vu ça.
Ouais, et puis c'est un peu la folie aux États-Unis par contre, le hockey sur glace, États-Unis et Canada, et puis même Russie, on va dire, parce que c'était les grands champions pendant des années en fait, le hockey sur glace russe. Donc nous, ça n'a rien à voir en France, c'est vraiment des petits niveaux hein, qu'on a sur le hockey sur glace. Donc on peut pas dire qu'on rentre dans les annales là-dessus, quoique les équipes commencent à augmenter. Il y a même une équipe de hockey sur glace à Nantes.
Ah ouais ?
Ouais, tout à fait. Je me rappelle plus comment ils s'appellent, les Corsaires, je crois, un truc comme ça.
Mais est-ce que vous avez une idée de quel pays est plus calé dans plein de domaines en sport comme ça que nous ? Parce que quand même, la France, dans plusieurs domaines, on est très haut niveau.
Je dirais les États-Unis, ils sont pas mal aussi.
Plus que nous.
Bon, après, vu l'émergence du pays, la grandeur du pays, tu vois, en athlétisme, ils sont très très bons. Football féminin, c'est eux qui, pour l'instant, qui.
Ah oui, football féminin. Ouais. D'ailleurs, petite anecdote sur le football féminin que j'ai vu il y a pas longtemps.
Ouais.
Les footballeuses américaines ont énormément manifesté pour avoir les mêmes revenus que footballeurs américains.
Et ça, c'est très récent.
Et ils ont réussi, du coup, en fait, maintenant, ils ont exactement les mêmes revenus. Et donc, du coup, par la suite, c'était un reportage sur Arte. Ah, c'était sur Arte Journal Junior, qui est un petit journal. Et il disait que en France, sur une Coupe du Monde par exemple, à chaque fois qu'ils gagnaient un match, il y a les footballeurs français, les gars, ils pouvaient gagner jusqu'à 300 000 euros de plus que les femmes. Et je me suis dit, mais en fait, c'est. Alors pour un footballeur, peut-être que c'est pas énorme, mais juste 300 000 euros, je trouve ça.
300 000 euros, c'est déjà juste c'est... énorme.
Et ça, c'est que aux États-Unis ?
Alors je sais qu'aux États-Unis, ils ont réussi. En France, c'est pas du tout le cas. Et c'est ça dans. Quelques autres pays, je crois, où justement les femmes et les hommes sont égaux sur ça, mais c'est très très peu le cas.
Ouais, c'est ça. Alors aux États-Unis, en plus, comme tu le dis, c'est très très récent, hein, parce que le football féminin, ça a eu du mal à démarrer hein, aux États-Unis. C'est une vingtaine d'années, un peu plus, qu'on en parle, que c'est diffusé, en tout cas. Les stats sont plein à craquer aux États-Unis quand les filles jouent au soccer. En fait, c'est le soccer, c'est pas le football. Donc là, c'était vraiment très récent. Mais on parle bien des salaires sportifs. On parle pas des sponsoring, en fait, à côté. Parce que ce qui rapporte le plus d'argent aux sportifs, en tout cas aux footballeurs, c'est bien les contrats de sponsoring, parce que c'est les droits de télévision, en fait, qui sont vendus derrière, et c'est le nombre de personnes qui regardent ces matchs qu'il faut augmenter forcément la prime des sponsors.
C'est déjà un petit pas, on peut dire.
Mais c'est déjà un énorme pas, même d'ailleurs, de pouvoir le reconnaître. Tu vois, donc bravo. Et je crois que c'est vraiment ça l'initiative des grosses stars du football féminin américain.
Voilà. Donc, petit message aux joueuses françaises.
Oui, tout à fait. Mais c'est pas rien. Ça revient aussi hein, chez les Françaises, parce que maintenant les matchs sont diffusés, déjà. Parce que c'était pas le cas, en fait, il y a quelques années.
Je sais plus c'est quand là, parce que là il y a en fin d'année il y a la Coupe du Monde de foot. Les filles, je sais qu'il y avait des matchs pour préparer la Coupe du Monde.
C'est ça, là ils sont sur la qualification de Coupe du Monde.
Ouais,
tout à fait.
Ça doit être l'année prochaine du coup.
C'est en 2023, ouais, c'est ça, tout à fait. Mais là c'est vrai que c'est un beau parcours. Hein. Je crois qu'ils sont premières de leur poule en tout cas les footballeurs.
Oui, j'ai vu des matchs genre, je crois qu'on en avait déjà parlé sur l'émission sport, genre 11-0 des trucs.
Oui, des trucs énormes.
Oui.
Genre ils marquent des points, enfin c'est hop, ils arrivent dans les camps, tuk-tuk.
Ouais, c'est un truc de fou. Alors après, il faut regarder aussi qu'il y a des différences énormes
de compétences,
ou dans les pays où c'est moins développé, forcément. Donc, mais par contre, quand ils tombent sur les États-Unis ou le Brésil,
là,
qui est une terre de football, parce que le football féminin au Brésil, c'est aussi quelque chose. Hein, c'est t'as Marta, la grande attaquante brésilienne, qui est une institution au Brésil. Hein, elle n'est pas du niveau de Pelé, mais elle est vraiment à un niveau quand même exceptionnel en fait là-dessus. Donc tu as quand même des pays aussi où que le sport féminin, eux, ils s'en foutent que ce soit masculin, féminin, c'est vraiment la ferveur en fait du sport qui fonctionne avant tout, et c'est très beau à voir, en tout cas. Très sympa, en tout cas, à voir. Au même titre que le handisport. C'est vrai, hein. Parce que le handisport, en fait, il y a quelques années, c'est pareil, on n'en parlait pas beaucoup.
C'est d'autant plus impressionnant. Hein.
Ouais, c'est ça.
Et
c'est...
oui, tout à fait. Tout à fait. Là, c'est, ouais, c'est l'épreuve de courage, l'épreuve d'aller encore au-dessus de soi, enfin, de se dépasser, enfin, le dépassement de soi. Donc, c'est très, très fort, quand même. Est-ce que vous voulez en savoir un petit peu plus sur les Paralympiques?
Ah oui.
Ouais. Alors, les compétitions seront organisées sur 6 sites se trouvant dans 3 zones. Le centre-ville de Pékin, alors je sais pas si je vais le dire après, Yangqing, et Zhangjiajou. Alors ça vous donne une bonne info, parce que personne ne sait où c'est. C'est génial. Mais ça valait le coup, en fait, de la place.
Je sais même pas l'écrire pour aller regarder sur Google.
Bah ouais. Tiens, comment tu dirais ça, toi? Là, alors... juste là, ici.
Yangqing Zhangjia... Ah non. Zhangjiajou,
vas-y, Maya.
Vas-y.
Tout en bas.
C'est beau ou pas?
Ah oui, Yangqing Zhangjiajou, ouais, Zhangjiajou, ouais, je pense.
Bon, avec ces trois interprétations, si vous n'avez pas compris, vous irez regarder sur Internet et puis voilà, tout simplement. Voilà, alors, les sites de compétition, on a fait les sélectionnés, donc je disais 19 athlètes, dont 4 guides, 2 en para-ski alpin et 2 en para-ski nordique. Et puis les porte-drapeaux, je vais vous parler des porte-drapeaux parce que c'est important de le faire. Vous savez ce que c'est, les porte-drapeaux sur les Jeux Olympiques?
Ceux qui portent le drapeau.
Exactement, c'est ça.
Oui,
c'est quand les délégations ils arrivent sur les cérémonies, c'est ceux qui portent, les premiers qui portent le drapeau. Il y a toujours des artistes qui sont, enfin des sportifs, je sais pas pourquoi j'ai dit artistes, des sportifs qui sont désignés pour être les porte-drapeaux.
Le sport est-ce de l'art? Débat.
Voilà.
Sujet de réflexion, vous avez 4 heures.
Exactement. Et le porte-drapeau de ces Paralympiques d'hiver, pour les Français, c'est Benjamin Daviette, qui est né le 16 juin 89 à Annecy, et lui c'est plus le paraski nordique, et sur 2 disciplines, le para biathlon et le paraski de fond. Donc c'est le médaillé d'or du 4x2 km 5 au JO de 2018 à Pyeongchang. Donc Pyeongchang en Corée, et puis qui avait aussi gagné la médaille d'argent en 20 km.
Ah ouais.
Voilà. Et en biathlon, alors donc ça c'était pour le ski de fond, et en biathlon c'est pareil, sur ces mêmes JO de 2018, il gagne la médaille d'or au sprint en 7 km 5 et le médaille d'or également sur le 12 km 5. Donc pareil, ça fait partie des sportifs les plus titrés sur les sports olympiques d'hiver. Voilà. Je ne vais pas vous faire tout son palmarès parce que je vous inviterai à regarder si vous voulez, parce que bah, il a été premier quand même sur Lillehammer. Non, pas Lillehammer. Premier en 2019, donc ça c'était sur les championnats du monde. Donc premier dans pratiquement toutes les disciplines. À part le relais open où il était deuxième, tu vois. Donc on comprend que c'est le porte-drapeau, tout simplement. Et il y a une fille aussi porte-drapeau sur ces Paralympiques, c'est bien aussi d'en parler. C'est Tessa Worley. Donc elle, c'est plus en ski alpin. Et c'est une spécialiste de l'épreuve du slalom géant. D'ailleurs, c'est la double championne du monde et qui fait partie, depuis 2008, des meilleures mondiales dans cette discipline en Coupe du Monde.
Ah oui.
C'est bien de le savoir hein, qu'on a des sportives françaises.
Ouais, tu te sens... Ça met un peu...
Quand même.
T'es content, tu dirais, français.
C'est... Ouais, ouais, carrément,
content.
Carrément. Donc 89, ça le fait 30 ans, c'est ça ? 32 ? 33 ans, quoi. Elle va sur ses 33. Et le dernier, en fait, à porter le drapeau, c'est Kevin Roland, qui, lui, plus sur du ski acrobatique. C'est marrant, ils sont tous de 89, en fait, ces athlètes. Skieur freestyle et acrobatique français. Vous voyez ce que c'est, le ski freestyle ? C'est super impressionnant.
C'est incroyable.
Voilà. J'adore c'est ce sport. Descendre et monter d'un coup, non ?
Alors, en fait, t'as les ski de boss. Donc freestyle en descente avec des bosses, mm-hmm. Et puis t'as le half pipe, c'est un peu comme le merde qu'on s'appelle le skatepark à Saint-Nazaire, comme un bol en fait.
Ouais.
Voilà. Donc là, du coup, c'est tu fais des figures freestyle, soit en snowboard, soit en ski, quoi. Donc lui, c'est pareil, c'est un médaillé de bronze lors de la première compétition olympique de ski à Sochi en 2014 et champion du monde en 2009 dans la même discipline. Trois fois vainqueur en super pipe des X Games à Aspen. Donc, c'est du lourd. Voilà. Donc, bravo à eux. Et on en revient justement à notre question du jour sur cette émission sport. Le boycott des athlètes russes, est-ce que c'est justifié ou non ?
Ah, du coup, moi, j'ai pas bien compris. C'est les athlètes russes qui ont décidé de pas venir ? Ou alors
non.
C'est les organisateurs des JO qui ont dit non, les Russes, vous venez pas.
C'est enfin, des sanctions prises par l'Union Européenne, je crois.
Alors là, c'est plus les fédérations qui ont décidé.
Ah, ok.
Du coup, les fédérations.
Bon, les fédérations qui ont interdit les joueurs russes d'aller à ces Jeux Olympiques. Voilà, donc moi, mon avis, c'est que pour moi, c'est une bonne chose. Certes, c'est pas. Parce que, certes, ils se représentent individuellement, mais ils viennent quand même représenter leur pays. Et même si c'est pas de leur faute, au moins ils se rendront compte de tout ce qui se passe peut-être et que peut-être qu'il y aura des répercussions au sein de leur équipe et de leur pays. Et donc peut-être que ça les aidera à ouvrir les yeux ou des choses à prendre conscience de ce qui se passe et que voilà. Même s'ils sont pénalisés, ça peut servir.
Maya ?
Moi je dis que je suis pas contre le boycott, c'est juste que pour moi, au final, pour cette invasion en Ukraine, c'est Poutine et on va dire le gouvernement, mais il n'y a pas tout le monde qui est pour ce gouvernement en Russie. Que peut-être les sportifs russes, en fait, bah, ça, ils y peuvent clairement rien. Ça se trouve complètement contre ça, comme beaucoup de personnes. Et en même temps, effectivement, le fait que c'est eux qui représentent leur pays, c'est-à-dire que la Russie vient avec l'invasion, tout ça. Après, je suis pas sûre que, au niveau du gouvernement et de l'invasion ukrainienne, enfin, les Russes qui envahissent l'Ukraine, je suis pas sûre que ça va changer grand chose du coup en même temps. Est-ce que c'est vraiment valable de faire un boycott ? Je me pose la question quoi.
Ouais, alors là je pense que c'est plus une décision. Alors voilà, il y a l'explication, hein, la décision a été prise, donc ça c'est le comité olympique qui a pris la décision. Alors il a fait un petit peu marche arrière parce que du coup il avait autorisé quand même les sportives russes à participer aux Jeux Olympiques, mais sans qu'ils soient étiquetés avec le drapeau russe, des trucs comme ça. Toi. Donc
c'est comme les derniers
Jeux Olympiques où que, du coup t'avais une représentation, mais tu mettais pas en avant en fait le pays en fait derrière, donc il y avait pas de drapeau, il y avait pas de maillot à l'effigie de la Russie en fait quelque part. Mm-hmm. Puis là ils ont fait marche arrière il y a quelques jours derrière parce que ils ont eu des menaces de boycott en fait des autres pays par rapport à la Russie qui disaient que si ces athlètes russes participaient aux Jeux Olympiques, eux ils participeraient pas aux Jeux Olympiques. Du coup ils ont fait un petit peu marche arrière. Et ils sont rangés du côté des autres grosses fédérations, comme la Fédération internationale de football, la FIFA, qui a exclu la Russie de la Coupe du Monde, qui se déroule en fin d'année, et de nombreuses fédérations comme l'athlétisme, le patinage, le rugby, la boxe et la natation.
Mais est-ce que, c'est-à-dire que si la guerre, par exemple, elle se finit là dans deux jours,
ouais.
Poutine lui dit on arrête, machin truc, ouais. Et il paye toutes les sanctions, bon, ce qui n'est peu probable.
Mais ouais,
est-ce que ça veut dire qu'ils enlèveront les sanctions ou ils pourront quand même jouer ?
Ben là, je ne sais pas du tout. Alors, en tout cas, en ce qui concerne les Jeux Olympiques, là, comme ça vient de démarrer, à mon avis, une fois que les compétitions ont commencé, ça va être difficile de réintégrer les sportifs. Et puis, c'est pareil, hein, pour la Coupe du Monde, en fait, de foot, il y a les matchs de qualification qui se déroulent en ce moment. La Russie devait jouer contre la Pologne dans quelques semaines, je crois que même la semaine prochaine. Donc, le fait que, du coup, ils n'aient pas accès à ces matchs de qualification, s'ils les font pas maintenant, ils risquent pas de rentrer dans la compétition derrière, quoi. Voilà. Après, sur les autres fédérations, je sais pas comment ça se passe, notamment au niveau du patinage ou du rugby ou de la boxe ou de la natation, je sais pas du tout comment ça se passe. Et puis c'est pas que les sportifs russes, parce que c'est aussi les parfois des sportifs biélorusses, donc Bélarus du coup, la Biélorussie, voilà, qui sont partisans forcément du. Qui rejoignent un petit peu la Russie. Je rejoins un petit peu ce que dit Maya. C'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de Russes qui sont aussi contre la guerre en Ukraine. Il y a aussi une grosse guerre. On va pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le but de l'émission. Il y a l'émission T'as vu l'actu demain pour pouvoir faire ça. Mais en tout cas, dans les détails, forcément, je pense qu'il y a une grosse guerre de l'information là-dessus. Je suis pas sûr que les Russes soient bien au courant de ce qui se passe vraiment en Ukraine. En tout cas, selon les images qui sont montrées, parce que les médias forcément appartiennent aussi, sont beaucoup contrôlés aussi par le gouvernement russe. Donc moi, je trouve ça un petit peu dommage. Moi, j'aimais bien le fait de pouvoir participer aux Jeux Olympiques sans l'étiquette du drapeau. C'était cool quand même. Et puis voilà quoi. En plus, moi je pense que du coup le fait de tout fermer, on coupe un petit peu la discussion, on coupe beaucoup de choses, hein, parce que il aurait pu avoir des très très beaux moments sportifs entre les Ukrainiens et les Russes, et du coup ça aurait été un beau message de paix, moi je trouve, au contraire. Et là, le fait de pas les laisser accéder aux grandes compétitions, ça laisse même pas ce message se faire, en fait, du coup quoi.
Voilà. J'ai une autre petite info par rapport à ça.
Ouais.
Y a un entraîneur de foot qui est décédé. C'est un entraîneur du Shakhtar Donetsk, qu'il a reçu un impact de fragments de balles russes.
D'accord, ok.
Voilà.
Ah oui, donc pas encore.
Donc il est mort.
Et du coup, d'accord. C'est un entraîneur de foot de quel
Donetsk. Alors du coup, c'est ukrainien ou c'est russe, hein, le Shakhtar Donetsk?
Il est ukrainien, je crois.
C'est ukrainien?
Oui, oui.
Ouais, mais le club.
Ah.
Ouais. Parce que du coup, c'est un club aussi qui était en Ligue des Champions, ça. Enfin, qui a joué en Ligue des Champions. Est-ce qu'ils sont encore qualifiés? Je sais pas.
Je vais regarder.
Ouais, c'est parti. Mais... c'est bien d'avoir la tablette.
Ok.
Carrément. Voilà, donc c'est une grosse info. Ça vient d'arriver, je pense, cette info. Elle est tombée il n'y a pas longtemps.
Ouais.
Ouais.
Exactement.
C'est un peu la breaking news de la radio La Tribu.
C'est ça.
C'est cool là-dessus. Donc voilà, moi je pense que c'est une grosse question quand même, hein, ce boycott, hein, des athlètes russes, voir un peu comment ça va évoluer derrière, mais je pense que ça aide pas du tout le dialogue, en tout cas, quoi.
C'est sûr.
C'est mon point de vue.
C'est une équipe de football, mais ukrainienne.
C'est un club ukrainien.
Oui.
D'accord.
Oui, c'est ça.
D'accord.
Voilà, j'en sais pas plus. Après, il y a des mots
ouais.
que je ne peux pas prononcer.
D'accord, faut pas les prononcer alors, du coup. Ok, eh bien, merci pour cette info. T'avais quelque chose à rajouter dessus?
Non. C'est... bon, il y a plein de détails, mais on va éviter.
Ouais,
c'est
pas... ok. Ouais, on va
voilà,
éviter.
Voilà, c'est pas très joyeux.
Ouais, c'est ça. C'est ça. On va rester focus sur l'angle sport, hein, comme on aime bien le faire.
Hein,
on verra ça dans d'autres émissions. Je vous propose une petite pause musicale avant d'attaquer ton sujet, du coup, Agathe.
Oui.
Très bien. Lily and the Pricks, le morceau, c'est The Best. Et c'est tout de suite dans la tribu. Si je replace le jingle ici, ça sera nickel. Allez, c'est parti.
Shoes ready by the door.
Et il y a toujours du sport dans la radio La Tribu sur le 106.9, 18h43, et encore un quart d'heure. Alors j'allais dire jusqu'à 19h, et puis j'avais l'horloge en face de moi, je me suis dit, tiens, je vais faire l'horloge parlante. 18h43, passé de 58 secondes, on va même pas passer, passé à 18h44. On va attaquer maintenant le biathlon avec Agathe.
Oui, exactement, donc il y a eu le relais de... Kontiolahti. Donc le podium en premier, bien évidemment, les Norvégiens, parce que les Norvégiens dominent en général, ouais. En biathlon.
Ouais.
Et en relais, donc les Français sont arrivés troisième, donc ils ont quand même décroché le podium. Ouais. Avec en premier Fabien Claude, en deuxième Émilien Jacquelin, en troisième Simon Détieux. Et en dernier, Quentin Fillon-Maillet.
Bon, bah super.
Donc, c'est une belle victoire.
Ouais, belle victoire.
Ils se sont bien battus.
Ouais. Voilà. Et du coup, c'était dans le cadre de quelle compétition, le biathlon ?
C'était les JO.
C'était les JO ?
Oui.
Non, biathlon. Ah si, d'accord.
Oui,
donc JO d'hiver, en fait.
Ouais.
D'accord. Donc là, c'est ceux de... C'était il y a 10 jours, l'info.
Le 15 février, je crois.
Oui, c'est ça. Parce que oui, c'était il y a 2-3 semaines.
Elle date un peu, cette info.
D'accord. Non, mais c'est
pas
bien.
Grave. C'est j'aime
bien,
bien c'est le biathlon.
Voilà.
C'était une belle course. Donc.
Et puis, ils ont gagné leur médaille de bronze. Hein, donc,
oui.
C'est son troisième.
Bon, voilà.
Félicitations à eux. Voilà, on aime bien le souligner aussi. on va parler aussi du... Tiens, Amaya, on va parler du H, qui est juste en face de toi.
Alors, j'ai pas bien compris, en fait...
Alors le H, il joue ce soir, donc c'est du handball,
ouais.
Voilà, c'est le HSBC Nantes, t'as le classement qui est juste derrière, je l'ai regardé tout à l'heure, ils sont deuxième de leur classement, juste devant le PSG, et ils jouent ce soir contre Strasbourg, je crois.
Alors,
non, c'est
oui,
pas Strasbourg.
Voilà,
c'est Strasbourg.
Trouvé. Alors le HSBC Nantes, il joue contre Dunkerque.
Ah, c'est Dunkerque, quoi, j'ai dit. Strasbourg,
vendredi
ça n'a rien à voir.
20h.
L'Est, et puis là, c'est plus au nord.
Et voilà.
Ok,
et
donc.
Ils sont pour le moment en deuxième place.
Ils sont deuxième place.
Avec un total de 29 points, et devant, il y a le Paris Saint-Germain.
Qui est à 33, je crois.
36.
Et voilà, donc ils sont vraiment pas loin du leader.
Troisième place derrière le HSBC Nantes, il y a Aix-en-Provence avec. Il y a en fait avec. Exactement, en fait, HSBC Nantes et Aix-en-Provence partagent un peu la.
La deuxième place.
Les deuxième et troisième places, ils ont. Le même nombre de points, le même nombre de J, je sais pas ce que, de joueurs, non ?
Joué, oui. C'est le match joué.
Ah oui, ils ont autant de matchs joués, autant de gagnés, autant de nuls et autant de perdus.
D'accord.
Donc en fait, ils sont vraiment...
C'est un ex-aequo parfait.
Enfin, voilà, c'est ça, un ex-aequo parfait.
Le hand, ça fonctionne comme le foot, c'est-à-dire Ligue 1, Ligue 2 ou...
Oui. Alors, t'as des ligues, on en avait parlé la dernière fois, je crois. Enfin, t'as des classements. Là, c'est la Star League, donc l'équivalent de la Ligue 1 au football. Et puis après, du coup, t'as des classements un petit peu différents, mais à peu près, t'as toujours le même style de division, en tout cas.
Okay.
Et après, t'as national, régional et
des
tout.
Des noms différents.
Ouais, tout à fait. On pourra peut-être refaire un point un jour là-dessus. Mmh. Alors, pourquoi on a parlé du H? C'est parce que Ilan, qui va rejoindre l'émission la semaine prochaine, et qui devait être là ce soir, n'a pas pu venir parce qu'il va assister au match de Dunkerque-Nantes, le handball du H à Nantes ce soir, donc gros match, il a eu des places et il nous fera un report du coup cette rencontre, donc ça c'est cool, peut-être qu'il prendra des petits sons, des trucs comme ça, ça va être la surprise en tout cas. Et puis pour rester dans le chauvinisme, parce qu'on aime bien le faire dans nos régions, petit hommage à Jean-Pierre Pernaud d'ailleurs, du coup on va parler des Nantais qui ont gagné face à Monaco en demi-finale de la Coupe de France, et donc du coup qui vont aller jusqu'en finale rencontrer cette fois-ci Nice. Cette musique-là fait toujours plaisir aux Canaries, quoi. Enfin, en tout cas, des fans des Canaries.
Tout de suite, il y a un petit sourire dans le coin de la bouche.
Et ouais, c'est ça. Et voilà, d'ailleurs, il y a une pleine page dans le Ouest France,
en tout cas,
dans l'Ouest France qui est sorti aujourd'hui. pour citer nos sources, et c'est important de le faire. Et puis voilà, le plus impressionnant, parce que moi j'ai maté ce match, en tout cas la deuxième mi-temps, à la fin, tout le monde s'est rué sur le terrain, les supporters, c'était une marée humaine, un truc de fou. Je crois qu'ils attendent ça depuis 22 ans en fait, les Canaries, de pouvoir remporter cette Coupe de France.
Ah oui.
Donc s'ils gagnent la Coupe de France contre Nice, je peux te dire que Nantes est en feu, quoi.
C'est ça.
C'est un truc de fou, quoi.
Bah déjà là, les deux victoires incroyables.
Oui, tout à fait. Voilà, donc Camboire, qui est l'entraîneur, qui a été mis en place il y a un an, déjà il a sauvé Nantes l'année dernière de la relégation, parce que c'était chaud pour eux, ils ont failli redescendre en Ligue 2, et puis il a fait un boulot monstrueux, parce que Nantes font une très très belle saison, je crois qu'ils sont 3e ou 4e du championnat actuellement, et puis bah, surtout finaliste de la Coupe de France. Mmh. Voilà, donc s'ils remportent la Coupe de France, ça va être
bravo
un truc...
Bravo à lui alors.
Voilà, bravo à lui.
Et au genre du coup, on entend.
Bien sûr.
Et on sera,
oui, c'est ça. Et on sera tous avec eux. La finale, je m'en rappelle plus quand c'est.
Le 7 mai,
au Stade de France. Tout à fait. Voilà. Face à Nice. Et on en reparlera, bien sûr, dans cette émission sport de cette finale. Surtout s'ils sont gagnants, les Nantais.
Hein. Surtout
s'ils sont gagnants.
Sinon, on fait comme si ça n'avait pas existé.
Sinon, on occulte le truc.
On n'en parle même pas. On boycotte.
On parlera d'autres choses. Mais en plus, s'ils gagnent, il y aura l'autre Ilan, parce que nous, on a du bol dans cette émission sport. En fait, on a deux Ilan. On a un Ilan avec deux N et un Ilan avec un N. Donc, le Ilan avec le N, eh ben, du coup, lui, il est fan de sport. Il sera aussi.
À la finale au Stade de France.
Exactement, à la finale au Stade de France.
Ah, oui, d'accord. Donc,
tout à fait. Donc,
tout
génial.
Est complet, là.
Tout est complet, là. C'est bien. Exactement. Et du coup, peut-être on lui demandera de faire un petit son de l'ambiance qu'il y a au Stade de France avec son téléphone. Je pense qu'il y a moyen qu'on puisse le diffuser à la tribu et puis qu'il puisse nous retransmettre tout ça. Ça serait cool.
Mmh.
Et oui. Agathe, elle s'y voit déjà.
Oui, mais je n'y vais malheureusement
pas.
Ouais,
moi non plus, je vais pas y aller.
Que c'est pas encore dit, mais du coup, ça m'a... Parce que j'ai pas du tout vu les matchs d'avant qui étaient sur des chaînes payantes.
Oui,
mais
alors là, coup, je précise, hein, la Coupe de France sera sur France Télévisions hein, quand même.
D'accord.
Donc ça, c'est bien.
Ok, et bah peut-être que je regarderai alors 7 mai, faut que je retienne.
Ouais, la finale sera, en tout cas, la demi-finale était sur France Télévisions, donc forcément, la finale sera aussi sur France Télévisions. Ce qui est normal d'ailleurs, hein, puisque c'est la Coupe de France quand même, quoi. Donc tout le monde va pas les acheter, hein. Faut arrêter Canal Plus et tout ça là. Parce qu'au bout d'un moment, on n'en peut plus. Alors pour conclure cette émission, est-ce que vous voulez jouer?
Oui,
amusons-nous un peu.
Amusons-nous un peu.
Hâte de perdre.
Bon, on compte pas les points. Vous voulez qu'on compte les points?
Non.
Parce que je pense que moi non plus, je suis pas très doué, donc
voilà. Ben, ça veut rien dire de toute façon.
Ça dépend si c'est général ou très précis.
Ok. Ben, c'est. Ah, y a des trucs qui sont chauds, il y a des trucs qui sont super faciles.
Eh ben, on va voir ça. Allez.
Ok. Très bien. Eh ben, jingle. C'est parti. Alors, on va commencer avec la première question. Première question, je remets mon truc dans l'ordre. Super. Ah tiens, j'ai retrouvé les feuilles des divisions. Voilà. Donc ça, c'est pour expliquer. Alors, le handball, on va pas le repartir. Parce que le temps que je retrouve, parce que je fais un bordel dans mes fiches, moi, c'est un truc de malade. Un jour, je les numéroterai, ça se passera mieux. Alors, on va parler du hockey sur glace. On en parlait tout à l'heure, du hockey sur glace. Eh bien, sur le hockey sur glace, de combien de périodes compte un match de hockey sur glace? Combien de périodes compte un match de hockey sur glace? Est-ce que c'est 3 périodes? Est-ce que c'est 4 périodes? Est-ce que c'est 5 périodes? Ou est-ce que c'est 6 périodes?
Quand tu parles de périodes, c'est comme au foot,
ouais.
Voilà, des mi-temps, voilà.
Pour moi, il y en a 4.
Alors, toi, il y en a 4.
Moi, je voulais que si t'as proposé 6, ça veut dire que c'est 5.
C'est logique, alors, 3, 4, 5, 6, toi tu dis 5, toi tu dis 4, et ben c'est Agathe qui a raison.
Ah.
4 périodes de 15 minutes pour le hockey sur glace. Bravo, Agathe.
Merci. On peut compter les points finis.
Oh, les escrocs, ah, j'étais sûr qu'elle allait dire ça en plus.
Oh, pour rigoler.
Allez, pour rigoler.
Vas-y, voilà. Je l'écoute.
Par contre, si tu perds, on compte plus les points.
Ouais, exactement.
Ok, j'ai compris. Alors, le score maximum pour une partie de bowling, parce que le bowling fait aussi partie du sport, le score maximum pour une partie de bowling est de 200 points, 300 points, 400 points ou 600 points? Est-ce que c'est 200 points, 300 points, 400 points ou 600 points?
400
score
points.
Maximum pour une partie de bowling.
Eh ben, j'aurais dit 500.
Toi, tu dis 500, toi, tu dis 400.
Tu l'as proposé 500?
J'ai pas dit 500.
Ah
j'ai
bon
dit 200, 300, 400
ah
ou 600.
Moi, je... mais là, c'est ce que, parce que moi aussi, ouais, j'aurais dit 500, mais bah... Bah, alors, j'ai 400. Ouais.
Donc, 400.
300.
300. Et eh ben voilà, t'as encore raison.
Voilà, voilà.
Au pif, elle a dit ça au pif.
Mais non, c'est le talent.
C'est le talent, on peut le ouais, dire. Oui, parce qu'elle joue au bowling talent, ouais, tous les week-ends, Agathe. En fait, c'est une grande championne du bowling. Pour réussir ces 300 points au bowling, il faut réussir 12 strikes consécutifs.
Waouh.
Voilà, donc 12 strikes, vous voyez ce que c'est les strikes, c'est qu'on dégage toutes les quilles du plateau en une fois.
Non, c'est si possible ça?
Ben oui, ça s'appelle un strike.
Bah, c'est un peu le but, quoi.
C'est ça, faut dégommer les quilles.
Attends,
t'as jamais fait du bowling?
Si, j'ai fait des... Ouais. Si, je sais, mais ouais, je savais même pas que c'était possible. En fait, je suis tellement nulle et je connais tellement pas le bowling que je savais même pas que c'était possible, quoi.
Ah ouais?
Quoi?
Ok.
Genre, mais... envoyer toutes les boules en même temps, en une seule fois?
Non,
pas les boules, pas les boules, les quilles. Tu fais sauter les quilles avec ta boule.
Ah, mais oui, c'est le bowling, je suis bête, moi. Mais
oui.
Mais en fait, je voyais
la pétanque. Ouais, toi, t'étais sur la pétanque. Toi, tu voyais dans la pétanque, le mec, en fait, il envoyait toutes ses boules. Tu vois?
Et du coup, j'ai dit, la pétanque, le mec, en un coup, il envoyait toutes les boules dans les trous. J'étais en mode, waouh.
Alors, la pétanque envoyait toutes les boules dans
non,
un trou.
Non, pas la pétanque. Non, mais attendez. Comment ça s'appelle?
Oh, c'est exceptionnel ce que tu nous dis.
Non.
Là, c'est le billard. Là, tu parles du billard.
Voilà, je vois. Quand tu m'as dit bowling, j'ai pensé billard.
Oui,
ouais,
bien sûr.
Ouais, bah oui.
Non, vraiment.
Bébé, on a vu.
Okay. Et donc, du coup, je me suis au billard. Alors, et je lance un coup
billard
et qui arrive à mettre.
Tu lances ta boule au billard. Donc, les quilles, ils tombent dans les trous.
Tu
non,
si
tu donnes un
coup
avec ton bâton dans les.
Ton bâton. Voilà,
mais
tu prends ton bâton. Ta canne à pêche.
Voilà, le bâton dans,
bah, ta canne,
dans une.
Ça part en générique en mode on se connaît très bien en sport.
C'est ça.
Ah ouais, c'est clair. Oh, les imposteurs qu'on est, quoi. Incroyable.
Et donc voilà, et je me suis dit qu'en fait c'était possible au billard d'envoyer. Je me demandais si c'était possible au billard d'envoyer toutes les boules.
Mais tu les envoies pas?
Non, mais c'est avec le bâton, avec une boule, la boule elle tape dans les.
Oui, dans le triangle.
Ah bah ça c'est possible.
Ouais, alors il y en a
en
qui.
En une seule
alors,
fois?
En une oui seule fois, il y a déjà eu des vidéos hein, comme ça. Hein. Alors je pense que c'est quand même assez rare, mais il y a des gens, oui, qui cartonnent quand
mais
même.
Ça s'appelle
au
pas un strike.
Ça s'appelle pas un strike, exactement.
Il y a un sinon, nom bien le bowling, c'est mais... 300 points.
Et le bowling, 300 points.
Strikes avec toutes les quilles
voilà
qui tombent.
12 strikes consécutifs, successifs, pour atteindre les 300 points au bowling.
Et si on fait pas... Oula, excusez-moi, il est un peu tard. Ah, c'est ça, c'est mes arrives.
Si oui, parce que cette émission n'est pas en direct, elle est enregistrée, il est 22h.
Ouais, et puis déjà, on est vendredi soir.
Et on est vendredi
voilà,
soir.
Voilà, déjà,
tout
merci
à fait.
Et si on fait pas strike, du coup, qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il y a un autre comptage de points.
Ah oui, du coup.
Tout
oui
simplement.
On n'est pas éliminé.
Voilà.
Ou...
Ah non, t'es pas éliminé.
Ce serait dommage.
Non, non. Alors là, on parle des points maximum que tu peux faire au bowling.
D'accord, des
300 points maximum au bowling. Alors, troisième question, parce que je n'ai pas été jusqu'à 10. On va parler maintenant des sumotori. Vous voyez les sumotori? Combat
de
sumo au Japon.
Ok.
Voilà,
Ouais.
Les messieurs assez forts.
Ouais, c'est très varié.
Voilà. Très varié. Avant le combat, que jettent les sumotori au centre de la piste, avant le combat, que jettent les sumotori au centre de la piste?
Un bout de tissu.
Alors, ils jettent quelque chose, il y a quatre propositions. Est-ce qu'ils jettent du sable? Est-ce qu'ils jettent de l'eau? Est-ce qu'ils jettent du poivre? Ou est-ce qu'ils jettent du sel? Du sable, de l'eau, du poivre ou du sel?
Pour moi, c'est du sel.
Alors, du sel pour toi?
Je sais que Agathe, elle a toujours les bonnes réponses, donc je sais que c'est du sel, mais du coup, je vais dire de l'eau pour tenter un autre truc.
D'accord. Eh ben c'est toi, t'as encore voilà raison, du sel. Et c'est pour ça qu'elle est contente, elle dit bah, heureusement qu'on compte les points
mais,
là du coup.
Mais je vous jure, je suis chanceuse.
Ouais, bah, c'est vrai que t'es chanceuse, hein, vraiment.
Mais genre, tu savais pas
c'est
du
un
tout
truc de fou quoi.
C'est du pif total.
Pour tout, je suis chanceuse vraiment, mais énormément.
Ah ouais.
Vraiment,
toi,
dans n'importe quel
toi,
domaine.
Toi, faut que tu joues au loto, hein, un truc comme ça quoi.
Ah bah je gagne, ouais. J'ai gagné 100 euros la dernière fois.
Ah, 100 balles t'as gagné.
Mais non, mais quand je dis je suis chanceuse, je rigole pas. Hein.
Ah ouais, putain, t'as trop de balles. Alors, il y a une explication.
Il va te ramener des trucs de loto, il va te les faire grâce.
Ouais, grave, mais grave.
Bah écoutez, bah, façon, si vous me le demandez.
Rendez-vous la semaine prochaine, ça va être ça. Franchement, sans problème. Du coup, il y a une petite explication pourquoi ils font ça, hein, ces sumotori. pour chasser les esprits. Alors ils chassent les esprits avant d'arriver sur l'aire de jeu en tapant avec leurs pieds, comme ça, un peu comme le haka au rugby. Mm-hmm. Et puis après ils jettent du sel pour purifier le cercle de combat.
Ah ouais.
En parlant de haka, petite anecdote d'une amie qui était en primaire. Et en fait, entre écoles, ils faisaient des matchs de rugby et eux, ils avaient inventé leur haka. Donc à chaque début de match, ils faisaient leur haka devant les autres classes qui étaient.
Bah nous aussi en 6ème.
Nous voilà.
Ouais. D'accord.
Nous on a inventé le nôtre. Je m'en souviens encore.
On pourrait peut-être faire un haka pour la radio La Tribu, pour l'émission sport.
On présente l'émission avec un haka.
Voilà, c'est
on
un.
Arrive.
C'est une très mauvaise idée, André.
Voilà,
très mauvaise idée.
On va pas faire ça. Ok, alors je vais donner la dernière question parce qu'il va être temps de se quitter après juste derrière. Quelle est la largeur d'un but de football, de la cage de football?
C'est très
quelle
bon
est la
ça,
largeur. Est-ce que c'est 7m12? Est-ce que c'est 7m22 ou est-ce que c'est 7m32?
Oh, ça joue pas beaucoup, hein.
Pas grand-chose. À 10
c'est 7m22.
Alors, 7m22 pour Agathe.
C'est ça?
Non, j'ai rien dit. Je ne dis pas la
c'est
réponse
quoi,
pour
c'est
l'instant.
C'est 7m12,
7m22, 7m32.
En fait, je suis sûre qu'elle a la bonne réponse.
J'en sais rien. Hein.
7m32, je dirais.
Alors, 7m32... J'ai pas une petite musique de suspense.
Non, mais
j'ai pas
c'est
vraiment
moi qui ai tout gagné.
C'est Maya.
Oui, super, enfin.
C'est Maya, c'est bien 7m32.
Oh, je suis contente.
Bravo, bravo.
Voilà, super. 7m32. Et en ce qui concerne la largeur des poteaux, eux, ils doivent pas excéder 12 cm. Donc c'est une réglementation. Ils doivent pas faire plus de 12
cm. En diamètre?
En diamètre. Enfin, en largeur.
12 cm.
Toi, oui,
en
diamètre, du coup. Non,
ah,
c'est
ouais,
ça,
c'est
en diamètre.
C'est quand même gros.
Bah, 12 cm,
c'est pas 12 cm, ça.
C'est ça, 12 cm à peu près.
Ouais, oui, bah, voilà. Voilà. Ouais, non, c'est pas si gros, en fait. Voilà.
Non. Pour nos amis auditeurs, vous pouvez pas voir les gestes.
C'est
mais...
gros.
Voilà. Ça, c'est pas 12 cm, non. Voilà.
Ça, c'est 1m50.
Parce que pour expliquer, Maya écarte les bras, carrément. Donc là, on serait plus à du 1m20.
C'est ça.
Du coup. Voilà, c'était la dernière question de ce jeu-là.
Très sympathique comme quiz.
Total 3-1.
Eh ben, super, on pourra en garder chaque semaine un petit quiz en fin de jeu. Ça
c'est
fait
sympa,
toujours,
oui.
Toujours plaisir. Et puis on peut même se dire à tour de rôle, chacun peut organiser le petit quiz.
Mmh. Change, j'en ai. Je sais pas.
Ça c'est bien.
Ouais. On valide celui-là. Allez, c'est validé. Je signe ça quelque part. Je le mets sur la table.
Comme la saison.
N'oublie
pas le numéro.
Je le grave sur la table. Le truc, tout le monde va gueuler après. Ok, merci à vous. Merci Maya. Merci Agathe.
Merci.
Avec grand plaisir.
On se retrouve la semaine prochaine ?
Bah non, du coup.
Bah non, oh là là, mais j'y arriverai pas. Alors pourquoi on se retrouve pas ? Ouais, c'est ça. C'est mieux que moi. Alors pourquoi on se retrouve pas la semaine prochaine ? Parce que le vendredi 11 mars, il y a la tribu du VIP de 18h à 19h. Ça sera pas le sport. Ça sera place à la tribu du VIP pour l'interview de Voodoo Game et des Lions pour des Lions. En tout cas, un des deux groupes en interview. Vous serez peut-être avec nous d'ailleurs sur cette interview.
Peut-être.
Parce que toi, tu vas voir le concert de Voodoo Game
je
en plus
là,
le
oui.
soir.
Ouais.
Voilà. Donc,
grâce à la tribu, j'ai gagné des places.
Exactement. Voilà, écoutez la tribu, vous auriez pu gagner des places. D'ailleurs, toutes les places ont été prises.
On est allé plus vite.
Oui, tout à fait. Et puis, Maya, pareil, t'es la bienvenue, 18 à 19,
ouais,
si tu veux participer.
Faut que je voie le programme, toujours.
D'accord, très bien. Elle est très bookée, Maya. on se retrouve la semaine prochaine. La programmation continue sur la radio La Tribu. À très bientôt. Bon week-end à tous. Salut, salut.